Chapitre 14. Affinité mutuelle des êtres organisés. Morphologie, embryologie, organes rudimentaires. Classification. Groupe subordonné à d'autres groupes. Système naturel. Les lois et les difficultés de la classification expliquées par la théorie de la descendance avec modification. Classification des variétés. Emploi de la généalogie dans la classification. Caractères analogiques ou d'adaptation. Affinités générales, complexes et divergentes. L'extinction sépare et définit les groupes. Morphologie entre les membres d'une même classe et entre les parties d'un même individu. Embryologie. Ces lois expliquées par des variations qui ne surgissent pas à un âge précoce et qui sont héréditaires à un âge correspondant. Organes rudimentaires. Explication de leur origine. Résumé. Classification. Dès la période la plus reculée de l'histoire du globe, on constate entre les êtres organisés une ressemblance continue héréditaire, de sorte qu'on peut les classer en groupes subordonnés à d'autres groupes. Cette classification n'est pas arbitraire, comme l'est, par exemple, le groupement des étoiles en constellations. L'existence des groupes aurait eu une signification très simple si l'un eût été exclusivement adapté à vivre sur Terre, un autre dans l'eau, celui-ci à se nourrir de chair, celui-là de substances végétales, et ainsi de suite. Mais il en est tout autrement, car on sait que, bien souvent, les membres d'un même groupe ont des habitudes différentes. Dans le deuxième et dans le quatrième chapitre sur la variation et sur la sélection naturelle, j'ai essayé de démontrer que, dans chaque région, ce sont les espèces les plus répandues et les plus communes, c'est-à-dire les espèces dominantes appartenant au plus grand genre de chaque classe, qui varient le plus. Les variétés ou espèces naissantes produites par ces variations se convertissent ultérieurement en espèces nouvelles et distinctes. Ces dernières tendent, en vertu du principe de l'hérédité, à produire à leur tour d'autres espèces nouvelles et dominantes. En conséquence, les groupes déjà considérables, qui comprennent ordinairement de nombreuses espèces dominantes, tendent à augmenter toujours davantage. J'ai essayé, en outre, de démontrer que les descendants variables de chaque espèce, cherchant toujours à occuper le plus de places différentes qu'il leur est possible dans l'économie de la nature, cette concurrence incessante détermine une tendance constante à la divergence des caractères. La grande diversité des formes qui entrent en concurrence très vite dans une région très restreinte et certains faits d'acclimatation viennent à l'appui de cette assertion. J'ai cherché aussi à démontrer qu'il existe, chez les formes qui sont en voie d'augmenter en nombre et de diverger en caractère, une tendance constante à remplacer et à exterminer les formes plus anciennes, moins divergentes et moins parfaites. Je prie le lecteur de jeter un nouveau coup d'œil sur le tableau représentant l'action combinée de ces divers principes. Il verra qu'ils ont une conséquence inévitable, et c'est que les descendants modifiés d'un ancêtre unique finissent par se séparer en groupes subordonnés à d'autres groupes. Chaque lettre de la ligne supérieure de la figure peut représenter un genre comprenant plusieurs espèces, et l'ensemble des genres de cette même ligne forme une classe. Tous descendent en effet d'un même ancêtre, et doivent par conséquent posséder quelques caractères communs. Mais les trois genres, groupés sur la gauche, ont, d'après le même principe, beaucoup de caractères communs et forment une sous-famille distincte de celles comprenant les deux genres suivants, à droite, qui ont divergé d'un parent commun depuis la cinquième période généalogique. Ces cinq genres ont aussi beaucoup de caractères communs, mais pas assez pour former une sous-famille. Ils forment une famille distincte de celles qui renferment les trois genres placés plus à droite, lesquels ont divergé à une période encore plus ancienne. Tous les genres descendus de A majuscule forment un ordre distinct de celui qui comprend les genres descendus de I majuscule. Nous avons donc là un grand nombre d'espèces descendant d'un ancêtre unique groupées en genres. Ceux-ci en sous-famille, en famille et en ordre, le tout constituant une grande classe. C'est ainsi, selon moi, que s'explique ce grand fait de la subordination naturelle de tous les êtres organisés en groupes subordonnés à d'autres groupes, fait auquel nous n'accordons pas toujours toute l'attention qu'il mérite parce qu'il nous est trop familier. On peut, sans doute, classer de plusieurs manières les êtres organisés comme beaucoup d'autres objets, soit artificiellement d'après leurs caractères isolés ou plus naturellement d'après l'ensemble de leurs caractères. Nous savons par exemple qu'on peut classer ainsi les minéraux et les substances élémentaires. Dans ce cas, il n'existe bien entendu aucun rapport généalogique. On ne saurait donc alléguer aucune raison à leur division en groupes. Mais pour les êtres organisés, le cas est différent, et l'hypothèse que je viens d'exposer explique leur arrangement naturel en groupes subordonnés à d'autres groupes, fait dont une autre explication n'a pas encore été tentée. Les naturalistes, comme nous l'avons vu, cherchent à disposer les espèces, les genres et les familles de chaque classe d'après ce qu'ils appellent le système naturel. Qu'entend-on par là ? Quelques auteurs le considèrent simplement comme un système imaginaire qui leur permet de grouper ensemble les êtres qui se ressemblent le plus et de séparer les uns des autres ceux qui diffèrent le plus, ou bien encore comme un moyen artificiel d'énoncer aussi brièvement que possible des propositions générales, c'est-à-dire de formuler par une phrase les caractères communs, par exemple, à tous les mammifères, par une autre, ceux qui sont communs à tous les carnassiers, par une autre, ceux qui sont communs au genre chien, puis en ajoutant une seule autre phrase, de donner la description complète de chaque espèce de chien. Ce système est incontestablement ingénieux et utile. Mais beaucoup de naturalistes estiment que le système naturel comporte quelque chose de plus. Ils croient qu'il contient la révélation du plan du Créateur. Mais à moins qu'on ne précise si cette expression elle-même signifie l'ordre dans le temps ou dans l'espace, ou tous deux, ou enfin ce qu'on entend par plan de création, il me semble que cela n'ajoute rien à nos connaissances. Une énonciation comme celle de l'inné qui est restée célèbre et que nous rencontrons souvent sous une forme plus ou moins dissimulée, c'est-à-dire que les caractères ne font pas le genre, mais que c'est le genre qui donne les caractères, semble impliquer qu'il y a dans nos classifications quelque chose de plus qu'une simple ressemblance. Je crois qu'il en est ainsi, et que le lien que nous révèlent partiellement nos classifications, lien déguisé comme il l'est par divers degrés de modification, n'est autre que la communauté de descendance, la seule cause connue de la similitude des êtres organisés. Examinons maintenant les règles suivies en matière de classification et les difficultés qu'on trouve à les appliquer selon que l'on suppose que la classification indique quelques plans inconnus de création ou qu'elle n'est simplement qu'un moyen d'énoncer des propositions générales et de grouper ensemble les formes les plus semblables. On aurait pu croire, et on a cru autrefois, que les parties de l'organisation qui déterminent les habitudes vitales et fixent la place générale de chaque être dans l'économie de la nature devaient avoir une haute importance au point de vue de la classification. Rien de plus inexact. Nul ne regarde comme importantes les similitudes extérieures qui existent entre la souris et la musaraigne, le dugong et la baleine, ou la baleine et un poisson. Ces ressemblances, bien qu'en rapport intime avec la vie des individus, ne sont considérées que comme de simples caractères analogiques ou d'adaptation. Mais nous aurons à revenir sur ce point. On peut même poser en règle générale que, moins une partie de l'organisation est en rapport avec des habitudes spéciales, plus elle devient importante au point de vue de la classification. Owen dit, par exemple, en parlant du dugong, « Les organes de la génération étant ceux qui offrent les rapports les plus éloignés avec les habitudes et la nourriture de l'animal, je les ai toujours considérés comme ceux qui indiquent le plus nettement ses affinités réelles. Nous sommes moins exposés dans les modifications de ces organes à prendre un simple caractère d'adaptation pour un caractère essentiel. » Chez les plantes, n'est-il pas remarquable de voir la faible signification des organes de la végétation dont dépendent leur nutrition et leur vie, tandis que les organes reproducteurs, avec leurs produits, la graine et l'embryon, ont une importance capitale. Nous avons déjà eu l'occasion de voir l'utilité qu'ont souvent, pour la classification, certains caractères morphologiques, dépourvus d'ailleurs de toute importance au point de vue de la fonction. Ceci dépend de leur constance chez beaucoup de groupes alliés. Constance qui résulte principalement de ce que la sélection naturelle, ne s'exerçant que sur des caractères utiles, n'a ni conservé ni accumulé les légères déviations de conformation qu'ils ont pu présenter. Un même organe, tout en ayant, comme nous avons toute raison de le supposer, à peu près la même valeur physiologique dans des groupes alliés, peut avoir une valeur toute différente au point de vue de la classification, et ce fait semble prouver que l'importance physiologique seule ne détermine pas la valeur qu'un organe peut avoir à cet égard. On ne saurait étudier à fond un groupe sans être frappé de ce fait que la plupart des savants ont d'ailleurs reconnu. il suffira de citer les paroles d'une haute autorité, Robert Brown, qui, parlant de certains organes des protacés, dit au sujet de leur importance générique qu'elle est comme celle de tous les points de leur conformation, non seulement dans cette famille, mais dans toutes les familles naturelles, très inégales et même, dans quelques cas, absolument nulles. Il ajoute, dans un autre ouvrage, que les genres des Conaracées diffèrent les uns des autres par la présence d'un ou de plusieurs ovaires, par la présence ou l'absence d'albumen et par leur préfloraison imbriquée ou valvulaire. Chacun de ces caractères pris isolément a souvent une importance plus que générique, bien que pris tous ensemble, ils semblent insuffisants pour séparer les Cnétis des Conarus. Pour prendre un autre exemple chez les insectes, Westwood a remarqué que, dans une des principales divisions des hyménoptères, les antennes ont une conformation constante, tandis que dans une autre, elles varient beaucoup et présentent des différences d'une valeur très inférieure pour la classification. On ne saurait cependant pas soutenir que, dans ces deux divisions du même ordre, les antennes ont une importance physiologique inégale. On pourrait citer un grand nombre d'exemples prouvant qu'un même organe important peut, dans un même groupe d'êtres vivants, varie quant à sa valeur en matière de classification. De même, nul ne soutient que les organes rudimentaires ou atrophiés ont une importance vitale ou physiologique considérable. Cependant, ces organes ont souvent une haute valeur au point de vue de la classification. Ainsi, il n'est pas douteux que les dents rudimentaires qui se rencontrent à la mâchoire supérieure des jeunes ruminants et certains os rudimentaires de leurs jambes ne soient fort utiles pour démontrer l'affinité étroite qui existe entre les ruminants et les pachydermes. Robert Brown a fortement insisté sur l'importance qu'a, dans la classification des graminées, la position des fleurettes rudimentaires. On pourrait citer de nombreux exemples de caractères tirés par des parties qui n'ont qu'une importance physiologique insignifiante, mais dont chacun reconnaît l'immense utilité pour la définition de groupes entiers. Ainsi, la présence ou l'absence d'une ouverture entre les fosses nasales et la bouche, le seul caractère d'après Owen qui distingue absolument les poissons des reptiles, l'inflexion de l'angle de la mâchoire chez les marsupiaux, la manière dont les ailes sont pliées chez les insectes, la couleur chez certaines algues, la seule pubescence sur certaines parties de la fleur chez les plantes herbacées, la nature du vêtement épidermique, tel que les poils ou les plumes, chez les vertébrés. Si l'ornithorynque avait été couvert de plumes au lieu de poils, ce caractère externe et insignifiant aurait été regardé par les naturalistes comme d'un grand secours pour la détermination du degré d'affinité que cet étrange animal présente avec les oiseaux. L'importance qu'ont pour la classification les caractères insignifiants dépend principalement de leur corrélation avec beaucoup d'autres caractères qui ont une importance plus ou moins grande. Il est évident en effet que l'ensemble de plusieurs caractères doit souvent, en histoire naturelle, avoir une grande valeur. Aussi, comme on en a souvent fait la remarque, une espèce peut s'écarter de ses alliés par plusieurs caractères ayant une haute importance physiologique ou remarquable par leur prévalence universelle, sans que cependant nous ayons le moindre doute sur la place où elle doit être classée. C'est encore la raison pour laquelle tous les essais de classification basés sur un caractère unique, quelle qu'en puisse être l'importance, ont toujours échoué, aucune partie de l'organisation n'ayant une constance invariable. L'importance d'un ensemble de caractères, même quand chacun d'eux a une faible valeur, explique seul cet aphorisme de Linné que les caractères ne donnent pas le genre, mais que le genre donne les caractères. Car cet axiome semble fondé sur l'appréciation d'un grand nombre de points de ressemblance trop légers pour être définis. Certaines plantes de la famille des Malpighiacées portent des fleurs parfaites, et certaines autres des fleurs dégénérées. Chez ces dernières, ainsi que l'a fait remarquer A. de Jussieu, la plus grande partie des caractères propres à l'espèce, au genre, à la famille et à la classe disparaissent et se jouent ainsi de notre classification. Mais lorsque l'aspicarpa, nue après plusieurs années de séjour en France, produit que des fleurs dégénérées, s'écartant si fortement sur plusieurs points essentiels de leur conformation, du type propre à l'ordre, M. Richard reconnut cependant, avec une grande sagacité, comme le fait observer Jussieu, que ce genre devait quand même être maintenu parmi les Malpighiacées. Cet exemple me paraît bien propre à faire comprendre l'esprit de nos classifications. En pratique, les naturalistes s'inquiètent peu de la valeur physiologique des caractères qu'ils emploient pour la définition d'un groupe ou la distinction d'une espèce particulière. s'il rencontre un caractère presque semblable, commun à un grand nombre de formes, et qui n'existe pas chez d'autres, il lui attribue une grande valeur. S'il est commun à un moins grand nombre de formes, il ne lui attribue qu'une importance secondaire. Quelques naturalistes ont franchement admis que ce principe est le seul vrai, et nul ne l'a plus clairement avoué que l'excellent botaniste Saint-Hilaire. Si plusieurs caractères insignifiants se combinent toujours, on leur attribue une valeur toute particulière, bien qu'on ne puisse découvrir entre eux aucun lien apparent de connexion. Les organes importants, tels que ceux qui mettent le sang en mouvement, ceux qui l'amènent au contact de l'air, ou ceux qui servent à la propagation, étant presque uniformes dans la plupart des groupes d'animaux, on les considère comme fort utiles pour la classification. Mais il y a des groupes d'êtres chez lesquels les organes vitaux les plus importants ne fournissent que des caractères d'une valeur secondaire. Ainsi, selon les remarques récentes de Fritz Müller dans un même groupe de crustacés, les Cypridina sont pourvus d'un cœur, tandis que chez les deux genres alliés, Cypris et Cytherea, cet organe fait défaut. Une espèce de Cypridina a des branchies bien développées, tandis qu'une autre en est privée. On conçoit aisément pourquoi des caractères dérivés de l'embryon doivent avoir une importance égale à ceux tirés de l'adulte, car une classification naturelle doit, cela va sans dire, comprendre tous les âges. Mais au point de vue de la théorie ordinaire, il n'est nullement évident pourquoi la conformation de l'embryon doit être plus importante dans ce but que celle de l'adulte, qui seul joue un rôle complet dans l'économie de la nature. Cependant, de grands naturalistes, Agassiz et Mayne Edwards, ont fortement insisté sur ce point que les caractères embryologiques sont les plus importants de tous, et cette doctrine est très généralement admise comme vraie. Néanmoins, l'importance de ces caractères a été quelquefois exagérée parce que l'on n'a pas exclu les caractères d'adaptation de la larve. Fritz Müller, pour le démontrer, a classé, d'après ses caractères seuls, la grande classe des crustacés, et il est arrivé à un arrangement peu naturel. Mais il n'en est pas moins certain que les caractères fournis par l'embryon ont une haute valeur si l'on en exclut les caractères de la larve tant chez les animaux que chez les plantes. C'est ainsi que les divisions fondamentales des plantes phanérogames sont basées sur des différences de l'embryon, c'est-à-dire sur le nombre et la position des cotylédons, et sur le mode de développement de la plumule et de la radicule. Nous allons voir immédiatement que ces caractères n'ont une si grande valeur dans la classification que parce que le système naturel n'est autre chose qu'un arrangement généalogique. Souvent, nos classifications suivent tout simplement la chaîne des affinités. Rien n'est plus facile que d'énoncer un certain nombre de caractères communs à tous les oiseaux. Mais une pareille définition a jusqu'à présent été reconnue impossible pour les crustacés. On trouve, aux extrémités opposées de la série, des crustacés qui ont à peine un caractère commun. Et cependant, les espèces les plus extrêmes étant évidemment alliées à celles qui leur avoisinent, celles-ci à d'autres, et ainsi de suite, on reconnaît que toutes appartiennent à cette classe des articulés et non aux autres. On a souvent employé dans la classification, peut-être peu logiquement, la distribution géographique, surtout pour les groupes considérables renfermant des formes étroitement alliées. Temminck insiste sur l'utilité et même sur la nécessité de tenir compte de cet élément pour certains groupes d'oiseaux, et plusieurs entomologistes et botanistes ont suivi son exemple. Quant à la valeur comparative des divers groupes d'espèces, tels que des ordres, les sous-ordres, les familles, les sous-familles et les genres, elle semble avoir été, au moins jusqu'à présent, presque complètement arbitraire. Plusieurs excellents botanistes, tels que M. Betham et d'autres, ont particulièrement insisté sur cette valeur arbitraire. On pourrait citer, chez les insectes et les plantes, des exemples de groupes de formes considérés d'abord par des naturalistes expérimentés comme de simples genres, puis élevés au rang de sous-famille ou de famille, non que de nouvelles recherches aient révélé d'importantes différences de conformation qui avaient échappé au premier abord, mais parce que depuis, l'on a découvert de nombreuses espèces alliées présentant de légers degrés de différence. Toutes les règles, toutes les difficultés, tous les moyens de classification qui précèdent s'expliquent, à moins que je ne me trompe étrangement, en admettant que le système naturel a pour base la descendance avec modification, et que les caractères regardés par les naturalistes comme indiquant des affinités réelles entre deux ou plusieurs espèces sont ceux qu'elles doivent par hérédité à un parent commun. Toute classification vraie est donc généalogique. La communauté de descendance est le lien caché que les naturalistes ont, sans en avoir conscience, toujours recherché, sous prétexte de découvrir soit quelques plans inconnus de création, soit d'énoncer des propositions générales, ou de réunir des choses semblables et de séparer des choses différentes. Mais je dois m'expliquer plus complètement. Je crois que l'arrangement des groupes dans chaque classe, d'après leurs relations et leur degré de subordination mutuelle, doit, pour être naturel, être rigoureusement généalogique, mais que la somme des différences dans les diverses branches ou groupes, alliées d'ailleurs au même degré de consanguinité avec leur ancêtre commun, peut différer beaucoup, car elle dépend des divers degrés de modification qu'ils ont subis. Or, c'est là ce qu'exprime le classement des formes en genre, en famille, en section ou en ordre. Le lecteur comprendra mieux ce que j'entends en consultant la figure du quatrième chapitre. Supposons que les lettres A majuscule à L majuscule représentent des genres alliés qui vécurent pendant l'époque silurienne et qui descendent d'une forme encore plus ancienne. Certaines espèces appartenant à trois de ces genres, A majuscule, F majuscule et I majuscule, ont transmis, jusqu'à nos jours, des descendants modifiés représentés par les 15 genres, de A14 à Z14, qui occupent la ligne horizontale supérieure. Tous ces descendants modifiés d'une seule espèce sont parents entre eux au même degré. On pourrait, métaphoriquement, les appeler cousins à un même millionième degré. Cependant, ils diffèrent beaucoup les uns des autres et à des points de vue divers. Les formes descendues de A majuscule, maintenant divisées en deux ou trois familles, constituent un ordre distinct de celui comprenant les formes descendues de I majuscule, aussi divisées en deux familles. On ne saurait non plus classer dans le même genre que leurs formes parentes A majuscule les espèces actuelles qui en descendent, ni celles dérivant de I majuscule dans le même genre que I majuscule. Mais on peut supposer que le genre existant, F majuscule 14, n'a été que peu modifié, et on pourra le grouper avec le genre primitif F majuscule dont il est issu. C'est ainsi que quelques organismes encore vivants appartiennent à des genres siluriens. De sorte que la valeur comparative des différences entre ces êtres organisés, tous parents les uns des autres au même degré de consanguinité, a pu être très différente. Leur arrangement généalogique n'en est pas moins resté rigoureusement exact. Non seulement aujourd'hui, mais aussi à chaque période généalogique successive. Tous les descendants modifiés de A majuscule auront hérité quelque chose en commun de leurs communs parents. Il en aura été de même de tous les descendants de I majuscule, et il en sera de même pour chaque branche subordonnée des descendants dans chaque période successive. Si toutefois, nous supposons que quelques descendants de A majuscule ou de I majuscule se soient assez modifiés pour ne plus conserver de traces de sa parenté, sa place dans le système naturel sera perdue, ainsi que cela semble devoir être le cas pour quelques organismes existants. Tous les descendants du genre F majuscule dans toute la série généalogique ne formeront qu'un seul genre, puisque nous supposons qu'ils se sont peu modifiés. Mais ce genre, quoique fort isolé, n'en occupera pas moins la position intermédiaire qui lui est propre. La représentation des groupes indiqués dans la figure sur une surface plane est beaucoup trop simple. Les branches devraient diverger dans toutes les directions. Si nous nous étions bornés à placer en série linéaire les noms des groupes, nous aurions encore moins pu figurer un arrangement naturel, car il est évidemment impossible de représenter par une série, sur une surface plane, les affinités que nous observons dans la nature entre les êtres d'un même groupe. Ainsi donc, le système naturel ramifié ressemble à un arbre généalogique, mais la somme des modifications éprouvées par les différents groupes doit exprimer leur arrangement en ce qu'on appelle genre, sous-famille, famille, section, ordre et classe. Pour mieux faire comprendre cet exposé de la classification, prenons un exemple tiré des diverses langues humaines. Si nous possédions l'arbre généalogique complet de l'humanité, un arrangement généalogique des races humaines présenterait la meilleure classification des diverses langues parlées actuellement dans le monde entier. Si toutes les langues mortes ou tous les dialectes intermédiaires et graduellement changeants devaient y être introduits, un tel groupement serait le seul possible. Cependant, il se pourrait que quelques anciennes langues, s'étant fort peu altérées, n'eussent engendré qu'un petit nombre de langues nouvelles, tandis que d'autres, par suite de l'extension, de l'isolement ou de l'état de civilisation des différentes races codescendantes, auraient pu se modifier considérablement et produire ainsi un grand nombre de nouveaux dialectes et de nouvelles langues. Les divers degrés de différence entre les langues dérivant d'une même souche devraient donc s'exprimer par des groupes subordonnés à d'autres groupes. mais le seul arrangement convenable, ou même possible, serait encore l'ordre généalogique. Ce serait en même temps l'ordre strictement naturel, car il rapprocherait toutes les langues mortes et vivantes suivant leurs affinités les plus étroites, en indiquant la filiation et l'origine de chacune d'elles. Pour vérifier cette hypothèse, jetons un coup d'œil sur la classification des variétés qu'on suppose ou qu'on sait descendues d'une espèce unique. Les variétés sont groupées sous les espèces, les sous-variétés sous les variétés, et, dans quelques cas même, comme pour les pigeons domestiques, on distingue encore plusieurs autres nuances de différence. On suit en un mot à peu près les mêmes règles que pour la classification des espèces. Les auteurs ont insisté sur la nécessité de classer les variétés d'après un système naturel et non pas d'après un système artificiel. On nous avertit, par exemple, de ne pas classer ensemble deux variétés d'ananas, bien que leur fruit, la partie la plus importante de la plante, soit presque identique. Nul ne place ensemble le navet commun et le navet de Suède, bien que leur tige épaisse et charnue soit si semblable. On classe les variétés d'après les parties qu'on reconnaît être les plus constantes. Ainsi, le grand agronome Marshall dit que, pour la classification du bétail, on se sert avec avantage des cornes, parce que ces organes varient moins que la forme ou la couleur du corps, etc. Tandis que, chez les moutons, les cornes sont moins utiles sous ce rapport, parce qu'elles sont moins constantes. Pour les variétés, je suis convaincue que l'on préférait certainement une classification généalogique si l'on avait tous les documents nécessaires pour l'établir. On l'a essayé, d'ailleurs, dans quelques cas. On peut être certain, en effet, quelle qu'ait été du reste l'importance des modifications subies, que le principe d'hérédité doit tendre à grouper ensemble les formes alliées par le plus grand nombre de points de ressemblance. Bien que quelques sous-variétés du pigeon culbutant diffèrent des autres par leur long bec, ce qui est un caractère important, elles sont toutes reliées les unes aux autres par l'habitude de culbuter qui leur est commune. La race à courte face a, il est vrai, presque totalement perdu cette aptitude, ce qui n'empêche cependant pas qu'on la maintienne dans ce même groupe à cause de certains points de ressemblance et de sa communauté d'origine avec les autres. À l'égard des espèces à l'état de nature, chaque naturaliste a toujours fait intervenir l'élément généalogique dans ses classifications, car il comprend les deux sexes dans la dernière de ses divisions, l'espèce. On sait cependant combien les deux sexes diffèrent parfois l'un de l'autre par les caractères les plus importants. C'est à peine si l'on peut attribuer un seul caractère commun aux mâles adultes et aux hermaphrodites de certains cirripèdes, que cependant personne ne songe à séparer. Aussitôt qu'on eut reconnu que les trois formes d'orchidées, antérieurement groupées dans les trois genres Monocanthus, Myanthus et Catusetum, se rencontrent parfois sur la même plante, on les considéra comme des variétés. J'ai pu démontrer depuis qu'elles n'étaient autre chose que les formes mâles, femelles et hermaphrodites de la même espèce. Les naturalistes comprennent dans une même espèce les diverses phases de la larve d'un même individu, quelque différentes qu'elles puissent être l'une de l'autre et de la forme adulte. Ils y comprennent également les générations dites « alternantes » de Steentrap, qu'on ne peut que techniquement considérer comme formant un même individu. Ils comprennent encore, dans l'espèce, les formes monstrueuses et les variétés, non parce qu'elles ressemblent partiellement à leur forme parente, mais parce qu'elles en descendent. Puisqu'on a universellement invoqué la généalogie pour classer ensemble les individus de la même espèce, malgré les grandes différences qui existent quelquefois entre les mâles, les femelles et les larves, puisqu'on s'est fondé sur elles pour grouper des variétés qui ont subi des changements parfois très considérables, ne pourrait-il pas se faire qu'on ait utilisé d'une manière inconsciente ce même élément généalogique pour le groupement des espèces dans les genres et de ceux-ci dans les groupes plus élevés sous le nom de système naturel? Je crois que tel est le guide qu'on a inconsciemment suivi, et je ne saurais m'expliquer autrement la raison des diverses règles auxquelles se sont conformés nos meilleurs systématistes. Ne possédant point de généalogie écrite, il nous faut déduire la communauté d'origine de ressemblance de tout genre. Nous choisissons pour cela les caractères qui, autant que nous en pouvons juger, nous paraissent probablement avoir été le moins modifiés par l'action des conditions extérieures auxquelles chaque espèce a été exposée dans une période récente. À ce point de vue, les conformations rudimentaires sont aussi bonnes, souvent meilleures, que d'autres parties de l'organisation. L'insignifiance d'un caractère nous importe peu. Que ce soit une simple inflexion de l'angle de la mâchoire, la manière dont l'aile d'un insecte est pliée, que la peau soit garnie de plumes ou de poils, peu importe. Pourvu que ce caractère se retrouve chez des espèces nombreuses et diverses, et surtout chez celles qui ont des habitudes très différentes, il acquiert aussitôt une grande valeur. Nous ne pouvons en effet expliquer son existence chez tant de formes, à habitudes si diverses, que par l'influence héréditaire d'un ancêtre commun. Nous pouvons à cet égard nous tromper sur certains points isolés de conformation, mais lorsque plusieurs caractères, si insignifiants qu'ils soient, se retrouvent dans un vaste groupe d'êtres doués d'habitudes différentes, on peut être à peu près certain, d'après la théorie de la descendance, que ces caractères proviennent par hérédité d'un commun ancêtre. Or, nous savons que ces ensembles de caractères ont une valeur toute particulière en matière de classification. Il devient aisé de comprendre pourquoi une espèce ou un groupe d'espèces, bien que s'écartant des formes alliées par quelques traits caractéristiques importants, doit cependant être classé avec elle. Ce qui peut se faire, et se fait souvent, lorsqu'un nombre suffisant de caractères, si insignifiant qu'il soit, subsiste pour trahir le lien caché dû à la communauté d'origine. Lorsque deux formes extrêmes n'offrent pas un seul caractère en commun, il suffit de l'existence d'une série continue de groupes intermédiaires, les reliant l'une à l'autre, pour nous autoriser à conclure à leur communauté d'origine et à les réunir dans une même classe. Comme les organes ayant une grande importance physique, ceux par exemple qui servent à maintenir la vie dans les conditions d'existence les plus diverses, sont généralement les plus constants, nous leur accordons une valeur spéciale. Mais si, dans un autre groupe ou dans une autre section de groupe, nous voyons ces mêmes organes différer beaucoup, nous leur attribuons immédiatement moins d'importance pour la classification. Nous verrons tout à l'heure pourquoi, à ce point de vue, les caractères embryologiques ont une si haute valeur. La distribution géographique peut parfois être employée utilement dans le classement des grands genres, parce que toutes les espèces d'un même genre, habitant une région isolée et distincte, descendent selon toute probabilité des mêmes parents. Ressemblances analogues. Les remarques précédentes nous permettent de comprendre la distinction très essentielle qu'il importe d'établir entre les affinités réelles et les ressemblances d'adaptation ou ressemblances analogues. Lamarck a le premier attiré l'attention sur cette distinction, admise ensuite par Maclay et d'autres. La ressemblance générale du corps et celle des membres antérieurs, en forme de nageoire, qu'on remarque entre le dugong, animal pachyderme, et la baleine, ainsi que la ressemblance entre ces deux mammifères et les poissons, sont des ressemblances analogues. Il en est de même de la ressemblance entre la souris et la musaraigne, Sorex, appartenant à des ordres différents, et de celle, encore beaucoup plus grande selon les observations de M. Mivart, existant entre la souris et un petit marsipial, Antecynus d'Australie. On peut, à ce qu'il me semble, expliquer ces dernières ressemblances par une adaptation à des mouvements également actifs au milieu de buissons et d'herbages, permettant plus facilement à l'animal d'échapper à ses ennemis. On compte d'innombrables cas de ressemblance chez les insectes. Ainsi, les nés, trompés par l'apparence extérieure, classa un insecte homoptère parmi les phalènes. Nous remarquons des faits analogues même chez nos variétés domestiques. La similitude frappante, par exemple, des formes des races améliorées du porc commun et du porc chinois descendues d'espèces différentes. Tout comme dans les tiges semblablement épaissies du navet commun et du navet de Suède. La ressemblance entre le lévrier et le cheval de course, à peine plus imaginaire que certaines analogies que beaucoup de savants ont signalées entre des animaux très différents. En partant de ce principe que les caractères n'ont d'importance réelle pour la classification qu'autant qu'ils révèlent les affinités généalogiques, on peut aisément comprendre pourquoi des caractères analogues ou d'adaptation, bien que d'une haute importance pour la prospérité de l'individu, peuvent n'avoir presque aucune valeur pour les systématistes. Des animaux appartenant à deux lignées d'ancêtres très distinctes peuvent, en effet, s'être adaptés à des conditions semblables et avoir ainsi acquis une grande ressemblance extérieure. Mais ces ressemblances, loin de révéler leur relation de parenté, tendent plutôt à les dissimuler. Ainsi s'explique encore ce principe, paradoxal en apparence, que les mêmes caractères sont analogues lorsqu'on compare un groupe à un autre groupe, mais qu'ils révèlent de véritables affinités chez les membres d'un même groupe, comparés les uns aux autres. Ainsi, la forme du corps et les membres en forme de nageoire sont des caractères purement analogues lorsqu'on compare la baleine au poisson, parce qu'il constitue, dans les deux classes, une adaptation spéciale en vue d'un mode de locomotion aquatique. Mais la forme du corps et les membres en forme de nageoire prouvent de véritables affinités entre les divers membres de la famille des baleines, car ces divers caractères sont si exactement semblables dans toute la famille qu'on ne saurait douter qu'ils ne proviennent par hérédité d'un ancêtre commun. Il en est de même pour les poissons. On pourrait citer, chez des êtres absolument distincts, de nombreux cas de ressemblances extraordinaires entre des organes isolés adaptés aux mêmes fonctions. L'étroite ressemblance de la mâchoire du chien avec celle du loup tasmanien, Tylacinus, animaux très éloignés l'un de l'autre dans le système naturel, en offre un excellent exemple. Cette ressemblance, toutefois, se borne à un aspect général tel que la saillie des canines et la forme incisive des molaires. Mais les dents diffèrent réellement beaucoup. Ainsi, le chien porte de chaque côté de la mâchoire supérieure 4 prémolaires et seulement 2 molaires, tandis que le Tylacinus a 3 prémolaires et 4 molaires. La conformation et la grandeur relative des molaires diffèrent aussi beaucoup chez les deux animaux. La dentition adulte est précédente d'une dentition de lactation tout à fait différente. On peut donc nier que dans les deux cas, ce soit la sélection naturelle de variations successives qui a adapté les dents à déchirer la chair. Mais il m'est impossible de comprendre qu'on puisse l'admettre dans un cas et le nier dans l'autre. Je suis heureux de voir que le professeur Flower, dont l'opinion a un si grand poids, en est arrivé à la même conclusion. Les cas extraordinaires cités dans un chapitre antérieur, relatifs à des poissons très différents, pourvus d'appareils électriques, à des insectes très divers possédant des organes lumineux, et à des orchidées et à des asclépiades à masse de pollen avec disques visqueux, doivent rentrer aussi sous la rubrique des ressemblances analogues. Mais ces cas sont si étonnants qu'on les a présentés comme des difficultés ou des objections contre ma théorie. Dans tous les cas, on peut observer quelques différences fondamentales dans la croissance ou le développement des organes, et généralement dans la conformation adulte. Le but obtenu est le même, mais les moyens sont essentiellement différents, bien que paraissant superficiellement les mêmes. Le principe auquel nous avons fait allusion précédemment sous le nom de « variation analogue » a probablement joué souvent un rôle dans les cas de ce genre. Les membres de la même classe, quoique alliés de très loin, ont hérité de tant de caractères constitutionnels communs qu'ils sont aptes à varier d'une façon semblable sous l'influence de causes de même nature, ce qui aiderait évidemment l'acquisition par la sélection naturelle d'organes ou de parties se ressemblant étonnamment en dehors de ce qu'a pu produire l'hérédité directe d'un ancêtre commun. Comme des espèces appartenant à des classes distinctes se sont souvent adaptées par suite de légères modifications successives à vivre dans des conditions presque semblables, par exemple à habiter la terre, l'air ou l'eau, il n'est peut-être pas impossible d'expliquer comment il se fait qu'on ait observé quelquefois un parallélisme numérique entre les sous-groupes de classes distinctes. Frappé d'un parallélisme de ce genre, un naturaliste, en élevant ou en rabaissant arbitrairement la valeur des groupes de plusieurs classes, valeur jusqu'ici complètement arbitraire, ainsi que l'expérience l'a toujours prouvé, pourrait aisément donner à ce parallélisme une grande extension. Et c'est ainsi que très probablement on a imaginé les classifications septénaires, quinaires, quaternaires et ternaires. Il est une autre classe de faits curieux dans lesquels la ressemblance extérieure ne résulte pas d'une adaptation à des conditions d'existence semblables, mais provient d'un besoin de protection. Je fais allusion au fait observé pour la première fois par M. Bates relativement à certains papillons qui copient de la manière la plus étonnante d'autres espèces complètement distinctes. Cet excellent observateur a démontré que, dans certaines régions de l'Amérique du Sud, où par exemple pullulent les essaims brillants d'Itomia, un autre papillon, le Leptalis, se faufile souvent parmi les Itomia auxquels il ressemble si étrangement par la forme, la nuance et les taches de ses ailes, que M. Bates, quoique exercé par 11 ans de recherche, et toujours sur ses gardes, était cependant trompé sans cesse. Lorsqu'on examine le modèle et la copie, et qu'on les compare l'un à l'autre, on trouve que leur conformation essentielle diffère entièrement, et qu'ils appartiennent non seulement à des genres différents, mais souvent à des familles distinctes. Une pareille ressemblance aurait pu être considérée comme une bizarre coïncidence si elle ne s'était rencontrée qu'une ou deux fois. Mais dans les régions où les Leptalis copient les Itomia, on trouve d'autres espèces appartenant au même genre, s'imitant les unes les autres avec le même degré de ressemblance. On a énuméré jusqu'à 10 genres contenant des espèces qui copient d'autres papillons. Les espèces copiées et les espèces copistes habitent toujours les mêmes localités, et on ne trouve jamais les copistes sur des points éloignés de ceux qu'occupent les espèces qu'ils imitent. Les copistes ne comptent habituellement que peu d'individus. Les espèces copiées fourmillent presque toujours par essaim. Dans les régions où une espèce de leptaliste copie une itomia, il y a quelquefois d'autres lépidoptères qui copient aussi la même itomia. De sorte que, dans un même lieu, on peut rencontrer des espèces appartenant à 3 genres de papillons et même une phalène qui toutes ressemblent à un papillon appartenant à un quatrième genre. Il faut noter spécialement, comme le démontrent les séries graduées, qu'on peut établir entre plusieurs formes de leptaliste copiste et les formes copiées, qu'il en est un grand nombre qui ne sont que de simples variétés de la même espèce, tandis que d'autres appartiennent sans aucun doute à des espèces distinctes. Mais pourquoi, peut-on se demander, certaines formes sont-elles toujours copiées, tandis que d'autres jouent toujours le rôle des copistes? Monsieur Bates répond d'une manière satisfaisante à cette question en démontrant que la forme copiée conserve les caractères habituels du groupe auquel elle appartient et que ce sont les copistes qui ont changé d'apparence extérieure et cessé de ressembler à leurs plus proches alliés. Nous sommes ensuite conduits à rechercher pour quelles raisons certains papillons ou certaines phalènes revêtent si fréquemment l'apparence extérieure d'une autre forme tout à fait distincte, et pourquoi, à la grande perplexité des naturalistes, la nature s'est livrée à de semblables déguisements. M. Bates, à mon avis, en a fourni la véritable explication. Les formes copiées, qui abondent toujours en individus, doivent habituellement échapper largement à la destruction, car autrement elles n'existeraient pas en quantité si considérable. Or, on a aujourd'hui la preuve qu'elles ne servent jamais de proie aux oiseaux ni aux autres animaux qui se nourrissent d'insectes, à cause sans doute de leur goût désagréable. Les copistes, d'une part, qui habitent la même localité, sont comparativement fort rares et appartiennent à des groupes qui le sont également. Ces espèces doivent donc être exposées à quelques dangers habituels, car autrement, vu le nombre des œufs que pondent tous les papillons, elles fourmilleraient dans tout le pays au bout de 3 ou 4 générations. Or, si un membre d'un de ces groupes rares et persécutés vient à emprunter la parure d'une espèce mieux protégée, et cela de façon assez parfaite pour tromper l'œil d'un entomologiste exercé, il est probable qu'il pourrait tromper aussi les oiseaux de proie et les insectes carnassiers, et par conséquent, échapper à la destruction. On pourrait presque dire que M. Bates a assisté aux diverses phases par lesquelles ces formes copistes en sont venues à ressembler de si près aux formes copiées. Il a remarqué en effet que quelques-unes des formes de leptalistes qui copient tant d'autres papillons sont variables au plus haut degré. Il en a rencontré dans un district plusieurs variétés dont une seule ressemble jusqu'à un certain point à l'itomia commune de la localité. Dans un autre endroit se trouvaient 2 à 3 variétés dont l'une, plus commune que les autres, imitait à s'y méprendre une autre forme d'itomia. M. Bates, se basant sur des faits de ce genre, conclut que le leptalis varie d'abord, puis, quand une variété arrive à ressembler quelque peu à un papillon abondant dans la même localité, cette variété, grâce à sa similitude avec une forme prospère et peu inquiétée, étant moins exposée à être la proie des oiseaux et des insectes, est par conséquent plus souvent conservée. Les degrés de ressemblance moins parfaits étant successivement éliminés dans chaque génération, les autres finissent par rester seuls pour propager leur type. Nous avons là un exemple excellent de sélection naturelle. Messieurs Wallace et Truman ont aussi décrit plusieurs cas d'imitation également frappants, observés chez les lépidoptères dans l'archipel malais et en Afrique chez des insectes appartenant à d'autres ordres. M. Wallace a observé aussi un cas de ce genre chez les oiseaux, mais nous n'en connaissons aucun chez les mammifères. La fréquence plus grande de ces imitations chez les insectes que chez les autres animaux est probablement une conséquence de leur petite taille. Les insectes ne peuvent se défendre, sauf toutefois ceux qui sont armés d'un aiguillon, et je ne crois pas que ces derniers copient jamais d'autres insectes, bien qu'ils soient eux-mêmes copiés très souvent par d'autres. Les insectes ne peuvent échapper par le vol aux plus grands animaux qui les poursuivent. Ils se trouvent donc réduits, comme tous les êtres faibles, à recourir à la ruse et à la dissimulation. Il est utile de faire observer que ces imitations n'ont jamais dû commencer entre des formes complètement dissemblables au point de vue de la couleur. Mais si l'on suppose que 2 espèces se ressemblent déjà quelque peu, les raisons que nous venons d'indiquer expliquent aisément une ressemblance absolue entre ces 2 espèces, à condition que cette ressemblance soit avantageuse à l'une d'elles. Si pour une cause quelconque, la forme copiée s'est ensuite graduellement modifiée, la forme copiste a dû entrer dans la même voie et se modifier aussi dans des proportions telles qu'elle a dû revêtir un aspect et une coloration absolument différentes de ceux des autres membres de la famille à laquelle elle appartient. Il y a cependant, de ce chef, une certaine difficulté, car il est nécessaire de supposer, dans quelques cas, que des individus appartenant à plusieurs groupes distincts ressemblaient, avant de s'être modifiés autant qu'ils le sont aujourd'hui, à des individus d'un autre groupe mieux protégé, cette ressemblance accidentelle ayant servi de base à l'acquisition ultérieure d'une ressemblance parfaite. sur la nature des affinités reliant les êtres organisés. Comme les descendants modifiés d'espèces dominantes appartenant au plus grand genre tentent à hériter des avantages auxquels les groupes dont ils font partie doivent leur extension et leur prépondérance, ils sont plus aptes à se répandre au loin et à occuper des places nouvelles dans l'économie de la nature. Les groupes les plus grands et les plus dominants dans chaque classe tentent ainsi à s'agrandir davantage et, par conséquent, à supplanter beaucoup d'autres groupes plus petits et plus faibles. On s'explique ainsi pourquoi tous les organismes éteints et vivants sont compris dans un petit nombre d'ordres et dans un nombre de classes plus restreintes encore. Un fait assez frappant prouve le petit nombre des groupes supérieurs et leur vaste extension sur le globe. C'est que la découverte de l'Australie n'a pas ajouté un seul insecte appartenant à une classe nouvelle. C'est ainsi que, dans le règne végétal, cette découverte n'a ajouté, selon le Dr Hooker, que 2 ou 3 petites familles à celles que nous connaissons déjà. J'ai cherché à établir, dans le chapitre sur la succession géologique, en vertu du principe que chaque groupe a généralement divergé beaucoup en caractère pendant la marche longue et continue de ses modifications, comment il se fait que les formes les plus anciennes présentent souvent des caractères jusqu'à un certain point intermédiaire entre des groupes existants. Un petit nombre de ces formes anciennes et intermédiaires a transmis jusqu'à ce jour des descendants peu modifiés qui constituent ce qu'on appelle les espèces aberrantes. Plus une forme est aberrante, plus le nombre des formes exterminées et totalement disparues qui la rattachaient à d'autres formes doit être considérable. Nous avons la preuve que les groupes aberrants ont dû subir de nombreuses extinctions, car ils ne sont ordinairement représentés que par un très petit nombre d'espèces. Ces espèces, en outre, sont le plus souvent très distinctes les unes des autres, ce qui implique encore de nombreuses extinctions. Les genres Ornithorhynchus et Lépidosirène, par exemple, n'auraient pas été moins aberrants s'ils eussent été représentés chacune par 12 d'espèces au lieu de l'être aujourd'hui par 1 seule, par 2 ou par 3. Nous ne pouvons, je crois, expliquer ce fait qu'en considérant les groupes aberrants comme des formes vaincues par des concurrents plus heureux et qu'un petit nombre de membres qui se sont conservés sur quelques points grâce à des conditions particulièrement favorables représentent seuls aujourd'hui. M. Waterhouse a remarqué que, lorsqu'un animal appartenant à un groupe présente quelque affinité avec un autre groupe tout à fait distinct, cette affinité est, dans la plupart des cas, générale et non spéciale. Ainsi, d'après M. Waterhouse, la viscache est, de tous les rongeurs, celui qui se rapproche le plus des marsupiaux. Mais ses rapports avec cet ordre portent sur des points généraux, c'est-à-dire qu'elle ne se rapproche pas plus d'une espèce particulière de marsupial que d'une autre. Or, comme on admet que ces affinités sont réelles et non pas simplement le résultat d'adaptation, elles doivent, selon ma théorie, provenir par hérédité d'un ancêtre commun. Nous devons donc supposer soit que tous les rongeurs, y compris la viscache, descendent de quelque espèce très ancienne de l'ordre des marsupiaux, qui aurait naturellement présenté des caractères plus ou moins intermédiaires entre les formes existantes de cet ordre, soit que les rongeurs et les marsupiaux descendent d'un ancêtre commun et que les deux groupes ont depuis subi de profondes modifications dans des directions divergentes. Dans les deux cas, nous devons admettre que la viscache a conservé par hérédité un plus grand nombre de caractères de son ancêtre primitif que ne l'ont fait les autres rongeurs. Par conséquent, elle ne doit se rattacher spécialement à aucun marsupial existant, mais indirectement à tous, ou à presque tous, parce qu'ils ont conservé en partie le caractère de leur commun ancêtre ou de quelques membres très anciens du groupe. D'autre part, ainsi que le fait remarquer M. Waterhouse, de tous les marsupiaux, c'est le Phascolomys qui ressemble le plus non à une espèce particulière de rongeur, mais en général à tous les membres de cet ordre. On peut toutefois, dans ce cas, soupçonner que la ressemblance est purement analogue, le Phascolomys ayant pu s'adapter à des habitudes semblables à celles des rongeurs. A.P. de Candolle a fait des observations à peu près analogues sur la nature générale des affinités de familles distinctes de plantes. En partant du principe que les espèces descendues d'un commun parent se multiplient en divergeant graduellement en caractère, tout en conservant par héritage quelques caractères communs, on peut expliquer les affinités complexes et divergentes qui rattachent les uns aux autres tous les membres d'une même famille ou même d'un groupe plus élevé. En effet, l'ancêtre commun de toute une famille, actuellement fractionnée par l'extinction en groupes et en sous-groupes distincts, a dû transmettre à toutes les espèces quelques-uns de ces caractères modifiés de diverses manières et à divers degrés. Ces diverses espèces doivent, par conséquent, être alliées les unes aux autres par des lignes d'affinité tortueuses et de longueurs inégales, remontant dans le passé par un grand nombre d'ancêtres, comme on peut le voir dans la figure à laquelle j'ai déjà si souvent envoyé le lecteur. De même qu'il est fort difficile de saisir les rapports de parenté entre les nombreux descendants d'une noble et ancienne famille, ce qui est même presque impossible sans le secours d'un arbre généalogique, on peut comprendre combien a dû être grande, pour le naturaliste, la difficulté de décrire, sans l'aide d'une figure, les diverses affinités qu'il remarque entre les nombreux membres vivants et éteints d'une même grande classe naturelle. L'extinction, ainsi que nous l'avons vu au quatrième chapitre, a joué un rôle important en déterminant et en augmentant toujours les intervalles existants entre les divers groupes de chaque classe. Nous pouvons ainsi nous expliquer pourquoi les diverses classes sont si distinctes les unes des autres, la classe des oiseaux par exemple, comparée aux autres vertébrés. Il suffit d'admettre qu'un grand nombre de formes anciennes qui reliaient autrefois les ancêtres reculés des oiseaux à ceux des autres classes de vertébrés, alors moins différenciées, se sont depuis tout à fait perdues. L'extinction des formes qui reliaient autrefois les poissons aux batraciens a été moins complète. Il y a encore eu moins d'extinctions dans d'autres classes, celles des crustacés par exemple, car les formes les plus étonnamment diverses y sont encore reliées par une longue chaîne d'affinités qui n'est que partiellement interrompue. L'extinction n'a fait que séparer les groupes, elle n'a contribué en rien à les former, car si toutes les formes qui ont vécu sur la Terre venaient à reparaître, il serait sans doute impossible de trouver des définitions de nature à distinguer chaque groupe, mais leur classification naturelle, ou plutôt leur arrangement naturel, serait possible. C'est ce qu'il est facile de comprendre en reprenant notre figure. Les lettres A majuscule à L majuscule peuvent représenter 11 genres de l'époque silurienne, dont quelques-uns ont produit des groupes importants de descendants modifiés. On peut supposer que chaque forme intermédiaire, dans chaque branche, est encore vivante, et que ces formes intermédiaires ne sont pas plus écartées les unes des autres que le sont les variétés actuelles. En pareil cas, il serait absolument impossible de donner des définitions qui permissent de distinguer les membres des divers groupes de leurs parents et de leurs descendants immédiats. Néanmoins, l'arrangement naturel que représente la figure n'en serait pas moins exact, car en vertu du principe de l'hérédité, toutes les formes descendant de A majuscule, par exemple, posséderaient quelques caractères communs. Nous pouvons, dans un arbre, distinguer telle ou telle branche, bien qu'à leur point de bifurcation, elles s'unissent et se confondent. Nous ne pourrions pas, comme je l'ai dit, définir les divers groupes, mais nous pourrions choisir des types ou des formes comportant la plupart des caractères de chaque groupe, petit ou grand, et donner ainsi une idée générale de la valeur des différences qui les séparent. C'est ce que nous serions obligés de faire si nous parvenions jamais à recueillir toutes les formes d'une classe qui ont vécu dans le temps et dans l'espace. Il est certain que nous n'arriverons jamais à parfaire une collection si complète. Néanmoins, pour certaines classes, nous tendons à ce résultat. Et Mine Edwards a récemment insisté, dans un excellent mémoire, sur l'importance qu'il y a à s'attacher aux types que nous puissions ou non séparer et définir les groupes auxquels ces types appartiennent. En résumé, nous avons vu que la sélection naturelle, qui résulte de la lutte pour l'existence et qui implique presque inévitablement l'extinction des espèces et la divergence des caractères chez les descendants d'une même espèce parente, explique les grands traits généraux des affinités de tous les êtres organisés, c'est-à-dire leur classement en groupes subordonnés à d'autres groupes. C'est en raison des rapports généalogiques que nous classons les individus des deux sexes et de tous les âges dans une même espèce, bien qu'ils puissent n'avoir que peu de caractères en commun. La classification des variétés reconnues, quelque différentes qu'elles soient de leurs parents, repose sur le même principe, et je crois que cet élément généalogique est le lien caché que les naturalistes ont cherché sous le nom de « système naturel ». Dans l'hypothèse que le système naturel, au point où il en est arrivé, est généalogique en son arrangement, les termes « genre »,« famille »,« ordre », etc., n'exprime que des degrés de différence, et nous pouvons comprendre les règles auxquelles nous sommes forcés de nous conformer dans nos classifications. Nous pouvons comprendre pourquoi nous accordons à certaines ressemblances plus de valeur qu'à certaines autres, pourquoi nous utilisons les organes rudimentaires et inutiles ou n'ayant que peu d'importance physiologique, pourquoi, en comparant un groupe avec un autre groupe distinct, nous repoussons sommairement les caractères analogues ou d'adaptation tout en les employant dans les limites d'un même groupe. Nous voyons clairement comment il se fait que toutes les formes vivantes et éteintes peuvent être groupés dans quelques grandes classes, et comment il se fait que les divers membres de chacune d'elles sont réunis les uns aux autres par les lignes d'affinité les plus complexes et les plus divergentes. Nous ne parviendrons probablement jamais à démêler l'inextricable réseau des affinités qui unissent entre eux les membres de chaque classe. Mais si nous nous proposons un but distinct, sans chercher quelques plans de création inconnus, nous pouvons espérer faire des progrès lents mais sûrs. Le professeur Hackel, dans sa Generelle Morphologie et dans d'autres ouvrages récents, s'est occupé avec sa science et son talent habituel de ce qu'il appelle la phylogénie, ou les lignes généalogiques de tous les êtres organisés. C'est surtout sur les caractères embryologiques qu'il s'appuie pour établir ces diverses séries, mais il cède aussi des organes rudimentaires et homologues, ainsi que des périodes successives auxquelles les diverses formes de la vie ont, suppose-t-on, paru pour la première fois dans nos formations géologiques. Il a ainsi commencé une œuvre hardie qui nous a montré comment la classification doit être traitée à l'avenir.